France Info.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir encore en simultané sur France Info, c'est-à-dire à la radio et en même temps, comme dirait le Président de la République, sur le canal 27 de la TNT. Et en même temps, c'est un peu cela, cette émission, une manière de s'informer et en même temps de se divertir, de devenir plus intelligent et en même temps de passer un moment agréable. Enfin, pour ça, je compte surtout sur vous. Bonsoir Virginie Le Guay.
Bonsoir.
Vous êtes chef adjointe du service politique de Paris Match. François Reinhardt, bonsoir à vous.
Bonsoir Olivier.
Journaliste à l'Obs. Yasmina Jaffar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. Et puis Henri Vernet, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Parisien, aujourd'hui en France. Au sommaire, ce soir encore beaucoup de politique. On va détailler un sondage tout d'abord exclusif sur l'opinion des Français, sur les gilets jaunes notamment. Nous nous intéresserons aussi au cas Éric Drouet, arrêté hier, libéré cet après-midi. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de faire de ce gilet jaune une sorte de martyr de la cause? Et puis nous allons parler des Chinois ce soir. Vous connaissez le proverbe, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt et le Chinois, lui, envoie une fusée. À quoi sert d'envoyer une sonde sur la face cachée de la lune? Est-ce autre chose que de vouloir épater le reste du monde? Vous nous le direz. Enfin, tandis que les Chinois ont la lune, nous, nous avons le Louvre, le musée bat des records de fréquentation. Qu'est-ce qui explique cette course à la Joconde? Qu'est-ce que cela dit de la France d'aujourd'hui? Vous nous le direz, là encore, les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est un sondage qui va faire beaucoup parler, soyez-en sûrs. Sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro, qui montre que le soutien aux gilets jaunes s'érode sensiblement, même s'il reste clairement majoritaire. 55% des Français contre 45% disent soutenir le mouvement. Alors, vous allez en débattre, mais écoutez d'abord les explications de Gaël Slimane, le président d'Odoxa.
Sur nos sondages hebdomadaires que nous avons réalisés ensemble depuis le début du mouvement, on a mesuré très longtemps un soutien extrêmement fort des Français. 84% de Français, au plus fort du soutien du mouvement, qui estimaient que ce mouvement était justifié. Et à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre encore, on avait une très large majorité de plus des deux tiers de nos concitoyens qui demandaient une poursuite du mouvement. Les choses ont changé depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 11 décembre dernier et les concessions qu'il a faites à ce moment-là. Et depuis lors, on a finalement plus qu'une petite majorité de 54-55% de Français qui souhaitent la poursuite du mouvement. Alors c'est toujours une majorité, me direz-vous, mais elle est réduite et surtout, elle est, vous l'avez dit, très clivée,
oui,
comme on
sur
dit.
Les catégories sociales.
C'est-à-dire
notamment.
Que désormais, on a des catégories aisés, la France d'en haut, si vous voulez, des cadres, des gens urbains, diplômés, etc., qui soutenaient le mouvement jusqu'à la mi-décembre et qui désormais disent très majoritairement « stop, ça doit s'arrêter ».
Bon alors Virginie Le Guay, comment est-ce que vous décryptez ce sondage 45-55? Il faut voir quoi? La bouteille à moitié vide, à moitié pleine?
Il faut à la fois remarquer que c'est une certaine catégorie de Français qui commence à lâcher l'affaire. Et il faut remarquer que malgré tout, il reste encore beaucoup de Français qui soutiennent ce mouvement. Parce que 55, c'est pas non plus une énorme majorité. Donc il en reste encore beaucoup qui le soutiennent. Et qui le soutiennent malgré les violences, malgré les débordements et malgré les actions parfois très controversées de certains de ces leaders. Donc c'est un sondage que je trouve finalement, chacun y verra ce qu'il voudra, mais plutôt d'une certaine façon encourageant pour les gilets jaunes encore aujourd'hui, en début janvier.
Chacun y voit ce qu'il veut y voir. Qu'est-ce que vous voulez y voir, Henri Vernet?
J'y vois quand même qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas si fréquent qu'un mouvement... Alors, on pense plutôt à des mouvements syndicaux d'habitude ou aux grandes grèves, par exemple, qui ont accompagné la réforme de la SNCF il y a un an. C'est pas si fréquent que ça débouche, et notamment aussi vite, sur des résultats aussi concrets. Parce que, là encore, c'est une question de verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais enfin, quoi qu'on en dise, un plan à 10 milliards d'euros aujourd'hui, c'est important. Je veux dire que le champ des mesures de tout ce qui a été proposé et annoncé au début décembre par le président Macron, ce sont quand même des gestes très significatifs.
Et c'est ça qui change tout, quoi.
Ça change, non, pas tout, mais ça change beaucoup. Ça change beaucoup et ça explique notamment que certains se disent, j'imagine les fameux 45%, se disent, bon ben voilà, ce mouvement n'a pas été inutile. Il y a des choses, il y a du grain à moudre. Comme disait un ancien syndicaliste, et donc il est logique que aujourd'hui la revendication passe sous une autre forme. Donc ça c'est le côté plutôt positif. En revanche, c'est vrai que 55% ça reste important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français, je pense dans leur ensemble, reste, avec les gilets jaunes, vigilant. C'est-à-dire qu'il faudra maintenant que ces avancées, ce qui est jugé comme des avancées, donc par pas mal de Français, se concrétisent réellement, qu'on voit où vont aller ces 10 milliards, est-ce que réellement tous ceux qui se trouvent au SMIC, non pas SMICard, mais avec des revenus équivalents au SMIC, est-ce qu'ils verront réellement leur situation s'améliorer, etc. Et surtout, il y a une deuxième partie qui est annoncée, je pense, là, un petit peu la victoire du gouvernement.
On va laisser passer par un peu
d'accord,
l'union,
mais ça explique aussi pourquoi il faut aller
vigilant. Yasmina Jaffar a très envie de nous dire ce qu'elle pense. Vous voyez comment le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est bon signe, mauvais signe pour le mouvement des Gilets jaunes?
C'est bon signe pour le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils vont avoir envie de continuer en pensant qu'ils sont encore soutenus par une partie des Français. C'est aussi Mais c'est aussi bon signe pour le président de la République qui, lui, attendait depuis un moment l'érosion justement de ce soutien, parce que ce qui a fait céder les 10 milliards, par exemple, ça n'est pas la violence, comme on l'a dit, c'est le soutien massif des Français.
Ce sont les sondages, 80%.
Voilà. Et c'est inédit qu'un mouvement qui parte simplement d'une taxe du carburant finissent par traduire un malaise total d'une population invive qu'on ne voyait pas. Les Français qui ne voyaient pas cette douleur-là ont fini par la voir et se sont reconnus aussi dans cette histoire-là. Donc les Gilets jaunes, c'est des Français. Après, il y a eu des samedis très compliqués qui ont traumatisé une partie des Français. Et il y a eu les 10 milliards, en effet, où ceux qui le soutiennent moins sont les gens plutôt à droite qui se disent « Bon, ben là, le président a fait un effort, maintenant on va passer à la discussion ».
Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde.
Ben, je pense aujourd'hui, à l'heure actuelle. On verra dans 2 jours, 3 jours, s'il y a un acte 8 et comment ça se passe.
On va demander à François Reynard de l'Obs ce qu'il en pense. Mais mon cher François, il est 20h10 sur France Info. Vous connaissez la règle.
C'est un teasing.
Dans 1 minute 30, on va vous entendre. Mais d'abord, c'est l'heure de l'info avec Augustin Rivet.
L'épouse de Peter Sherif poursuivie à son tour pour association de malfaiteurs terroristes criminels, également pour financement d'une entreprise terroriste. France Info l'a appris ce soir, Soulef Hajimi a été placé en détention provisoire. Ils ont été arrêtés ensemble à Djibouti le 16 décembre. Peter Sherif a reconnu en garde à vue avoir été en contact avec l'un des auteurs des attentats de Charlie Hebdo. Éric Drouet sera jugé à Paris le 15 février, convocation de ce membre des Gilets jaunes pour organisation de manifestations sur la voie publique sans autorisation. Il a été relâché cet après-midi après moins de 24 heures de garde à vue et sa version des faits n'a pas changé. Il ne manifestait pas hier soir au moment de son interpellation, mais se rendait simplement à un rendez-vous au restaurant. Alain Juppé n'est plus ce soir membre du parti Les Républicains. Le maire de Bordeaux ne paye plus de cotisations depuis 2 ans. C'est donc le règlement intérieur du parti qui s'applique. Il est automatiquement exclu. L'ancien Premier ministre avait reconnu dès janvier dernier qu'il ne comptait plus verser cette contribution au parti. Nancy Pelosi redevient ce soir la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle occupait déjà le poste de 2007 à 2010. À 78 ans, elle est élue en Californie pour le camp démocrate qui a retrouvé la majorité aux récentes élections de mi-mandat. Cette place au Parlement, c'est le 3e poste le plus important du pays.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
45 contre 55, c'est désormais l'équilibre des forces en France. 45% qui ne soutiennent plus le mouvement des Gilets jaunes contre 55% donc qui le soutiennent. François Reynard, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel équilibre?
Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit brillamment mes camarades. Je voulais remarquer autre chose dans ce sondage Odoxa qui me paraissait très intéressant. C'est sur les préoccupations, les souhaits, les angoisses des Français. Je note une chose, c'est que ça fait depuis 20 ans que la droite, enfin une partie de la droite identitaire, disons, celle dont ne veut plus Monsieur Juppé, la droite de Laurent Wauquiez, ou l'extrême droite, disent la grande préoccupation des Français, elle est identitaire, c'est l'insécurité culturelle, ils ont peur de plus être des vrais Français, etc. Et je vois dans ce sondage, fait à propos des Gilets jaunes, toutes les premières préoccupations sont toutes sociales. C'est-à-dire, massivement, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Deuxièmement, le chômage, etc. Les questions d'immigration, d'insécurité culturelle, etc. arrivent très en bas. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Et c'est quelque chose aussi qui a été levé par les Gilets jaunes, en quelque sorte. C'est que tout le monde pensait qu'il pourrait y avoir en France des mouvements divers sur, justement, ces questions culturelles, ces questions identitaires. Et le mouvement qui s'est levé, c'est un mouvement qui est social. Alors, il n'est pas que ça, parce que dans les Gilets jaunes, il y a des courants divers. Il y a des courants qui sont très marqués par l'extrême droite, donc qui sont assez sensibles aux thématiques, justement, on a vu ça avec l'histoire du pacte de Marrakech, etc., aux thématiques immigration. Mais la majorité des Gilets jaunes, c'est ces questions qui sont des questions sociales. Moi, je trouve ça intéressant en France que qu'on se rappelle qu'il y a des questions sociales et qu'il y a des gens qui ont pas assez d'argent et qu'il faut essayer de trouver un moyen de leur donner plus d'argent et de partager plus l'argent. Donc en fait, voilà.
C'est bon, mais oui, justement, et Virginie Loguet, quand même, ce sondage nous montre une chose, c'est que on a l'impression qu'il y a une France qui se coupe en deux sur cette question des revendications des Gilets jaunes. En gros, une France qui est plutôt urbaine, qui est plutôt aisée, qui se dit là maintenant stop aux Gilets jaunes, et puis cette France des ronds-points. Cette France coupée en deux, il n'y a pas un problème quand même.
Elle était déjà coupée en deux, si on se souvient de la carte électorale du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il y a vraiment deux France qui se regardent, et qu'Emmanuel Macron d'ailleurs a continué à opposer d'une certaine façon. Il a choisi une politique extrêmement libérale, il l'a choisi délibérément, au risque de rendre l'autre partie des Français, ceux qui n'étaient pas concernés par cette politique, ou ceux-mêmes qui en ont souffert, au lieu de les rendre tout à fait furieux et hors d'eux, ce qu'ils ont manifesté. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure à propos de ce qui a déclenché les interventions d'Emmanuel Macron et les mesures annoncées. Moi, il me semble au contraire que c'est la violence qui a été le basculement du mouvement, et que s'il n'y avait pas eu ces images incroyablement saisissantes de ce samedi à Paris où on voyait...
L'Arc de Triomphe,
oui.
Non seulement l'Arc de Triomphe, mais les feux dans la ville, les voitures brûlées, qui ont fait ces images qui d'ailleurs ont fait le tour du monde. S'il n'y avait pas eu ces images, je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron ne se serait pas résigné, comme il a donné l'impression de le faire, à annoncer ces mesures.
Bon,
il a été très long à entendre les revendications des Gilets jaunes, et il a fallu que le cran soit très haut pour qu'il finisse par lâcher. Et c'est d'autant plus dommageable que maintenant, dans la tête de ceux qui continuent encore à manifester, qui se sont beaucoup radicalisés, il y a cette corrélation entre violence égale gain. C'est-à-dire que si on est violent, on obtiendra encore des choses.
Mais s'il y avait cette violence sans le soutien massif et inédit des Français,
peut-être.
Il n'aurait pas cédé de cette façon. Parce que des violences, il y en a eu d'autres. Rappelez-vous le 1er mai de l'année dernière,
Alexandre voilà. Benalla également.
Exactement. Il y en a eu d'autres. Donc là, je pense que ce qui a sidéré tout le monde, c'est un, de ne pas avoir vu ce mouvement arriver et qu'il ait pris. C'est un tsunami absolu et complètement incompréhensible. Et même les sociologues vont mettre du temps à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des Français pour que 77 ou 80% des Français le soutiennent si longtemps, en fait. Il n'y a que.
Et malgré la violence.
Et malgré la violence, donc c'est pour ça, je crois vraiment que le président a été trop vif sur cette idée en disant si je n'ai pas l'opinion avec moi, je vais perdre sur toute la ligne. Il n'y avait que sa base qui votait pour lui les 20 et quelques pourcents il y a 18 mois, qui ont continué à le soutenir, mais tous les autres ont quitté le navire.
Henri Vernet.
Oui, non, je pense qu'en effet, c'est vraiment la mauvaise nouvelle, en quelque sorte, de ce sondage, c'est ce clivage qui apparaît très nettement, parce que l'un des ressorts, vous avez raison, les sociologues mettront du temps, etc., à voir ce qui s'est réellement passé, mais ça, c'est classique et c'est normal. 68, par exemple, 50 ans après, on se demande encore comment tout ça, enfin, tous les tenants aboutissants. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'un des ressorts était justement la... presque un côté enfin revanchard, mais également au bon sens du terme, c'est-à-dire en finir avec cette France vraiment coupée en deux, inégalitaire, en gros ceux qui sont qui vivent plutôt qui surfent disons avec la mondialisation, qui s'en sortent pas mal, qui est une France des diplômés, qui en gros était l'électorat de Macron, mais ça va bien au-delà de cela, et une France qui au contraire se sent reléguée, périphérique, humiliée, qui ressasse ça depuis des décennies et qui là s'est exprimée et qui a demandé en quelque sorte qu'on remette les pendules l'honneur, parce que, bien sûr, c'est passé symboliquement par cette taxe sur le carburant qui pénalisait justement ceux qui ont le moins, mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ça, tout ça a débouché sur un éventail de requêtes absolument phénoménal. Et ce soutien, ces fameux 80% qui ont longtemps accompagné ce mouvement, malgré en effet les premiers samedis de violence, au moins les deux premiers, ça a perduré. Pourquoi ? Parce que c'était perçu finalement comme une cause assez légitime par, y compris
la fameuse
Français
violence
les plus aisés.
Légitime.
Non, mais là, je parle pas de la violence, de brûler les voitures, de raconter n'importe quoi sur les ronds-points du style Madame Macron sur les palettes, etc. Là, c'est jamais légitime, ce genre de délire. Et puis surtout, d'appeler un soulèvement armé, comme le font certains gilets jaunes.
Vous voulez dire Eric
Douai,
dont on va...
Nicole, qui dit absolument n'importe quoi. Donc ça, non, c'est pas légitime. Mais le reste, oui, je veux dire, cette poussée qui durait, ça a été perçu comme légitime, donc y compris par la France, qui ne se sentait pas forcément gilet jaune. Et ça, aujourd'hui, c'est ça qui s'érode, c'est ça qui disparaît. Ça veut dire qu'on reviendrait à la situation hantée. Et là, ça peut redevenir compliqué. Parce que si une nouvelle fois, cette France, cette moitié de Français se sent humiliée, reléguée, que décidément ça n'avance pas, bah oui, il y aura un problème.
François Reynard,
vous voyez, on a tous des problèmes à analyser ce mouvement parce qu'on n'a pas d'avis tranché. C'est très compliqué d'avoir un avis tranché dessus parce qu'on a tous cette double chose qui est, je pense qu'on partage tous ça, on n'a pas les mêmes opinions autour de la table, mais on partage tous cette chose que il y a les aspects de fraternité, de gens qui se retrouvent sur un rond-point, qui disent on n'a rien, etc. C'est des gens qu'on a envie d'aider, hein, et on comprend leur souffrance, etc. Et effectivement, quand on voit des dingues complotistes comme ce Maxime Nicole là, qui dit il y aura une insurrection armée, etc., on se dit au secours pourvu que le gouvernement soit assez fort pour résister à ces factieux. Donc c'est un mouvement qui est très double et je pense que c'est à la fois ce qui explique, qui décline un peu à la fois dans l'opinion, mais qu'il y a une partie de l'opinion qui reste sympathisant de ça, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi je continue à aimer ceux qui me plaisent dans ces gilets jaunes, qui est ces braves gens qui se retrouvent autour d'un bras zéro et qui disent je suis mieux, on est mieux ensemble que à regarder la télé tout seul et à pleurer parce que j'arrive pas à vivre avec les 1000 euros que j'ai. Donc il y a c'est un mouvement double, c'est un mouvement très compliqué.
Et à travers l'allocution du président de la République le soir du 31, on se rend compte qu'il a peut-être compris aussi ces deux France-là, parce que cette rigueur qui n'avait absolument rien à voir avec l'acte de contrition quelques jours avant dans une autre allocution où il avait les mains sur la table était totalement figée.
Le 10 décembre.
Voilà, quand il parle comme ça, il s'adresse à ces 45% qui ont besoin de rigueur, qui ont besoin d'ordre et qui ont envie d'un président de la République qui ressaisit un petit peu la situation et qui dise... Maintenant, c'est terminé. J'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, on va discuter, on va ouvrir ce débat. Et il s'adresse à cet électorat-là qui est à droite et qui a besoin de gonfler un peu son électorat de base qui n'est que, encore une fois, que 20% à le soutenir encore aujourd'hui.
Virginie Le Guay.
C'est clair qu'il a lancé des signaux, à son électorat de droite deux fois en disant que l'ordre devait régner dans le pays. Et je pense même que la scène qui s'est jouée autour d'Éric Dupond était destinée aussi à montrer que nous vivions dans un pays où les règles devaient être appliquées, où le droit devait régner.
Vous êtes en train d'anticiper, vous êtes en train de spoiler la suite des informés.
C'est
pas du jeu. C'est 20h20. C'est les infos. On se retrouve dans 1 minute 30. Augustin Arrivé.
L'épouse de Peter Sherif placée en détention provisoire, information France Info, sous l'effet Jimmy a été mise en examen aujourd'hui, poursuivie comme son compagnon pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour financement d'une entreprise terroriste. Le couple avait été interpellé le mois dernier à Djibouti. Peter Sherif a reconnu des contacts avec Sherif Kouachi, l'un des assassins de Charlie Hebdo. Éric Drouet est sorti de garde à vue cet après-midi, moins de 24 heures après son interpellation à Paris, membre des Gilets jaunes. Il est poursuivi pour organisation de manifestations sur la voie publique sans autorisation, ce pourquoi il sera jugé le 15 février prochain. Grande inquiétude environnementale aux Pays-Bas, un porte-conteneur a été pris dans une tempête hier en mer du Nord. 270 de ces conteneurs sont passés par-dessus bord, certains avec des substances extrêmement toxiques. Un sac de 25 kg de poudre de peroxyde a été retrouvé aujourd'hui sur une plage du nord du pays. Produit utilisé dans les polystyrènes et les PVC, le navire était immatriculé au Panama. Il a pu regagner le port. Il est inadmissible que le foot italien fasse semblant de ne pas voir une discrimination évidente. Indignation ce jeudi du secrétaire d'État italien à la parité. Les tickets pour la Supercoupe d'Italie de football sont en vente depuis aujourd'hui. Ce sera en Arabie Saoudite dans deux semaines. Suivant les usages saoudiens, toutes les spectatrices s'assieront ce soir-là dans une tribune réservée aux familles. Elles ne peuvent pas venir non accompagné, le président de la Ligue italienne de football se félicite au contraire que des femmes assistent à un match.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Alors Virginie Le Guay, vous vouliez nous parler...
J'ai été coupée dans mon élan.
D'Éric Drouet, eh ben, on va en parler.
En tout cas, vous aviez raison.
Pourtant, si je peux en placer une, tout de même, il y a 48 heures, ce nom était pratiquement inconnu et le voilà propulsé évidemment à la une de l'actualité, considéré comme un dangereux factieux par certains, comme un citoyen admirable et fascinant par d'autres, comme Jean-Luc Mélenchon. Éric Drouet, interpellé hier soir à l'occasion d'une manifestation non autorisée de quelques dizaines de personnes, c'était proche de la place de la Concorde à Paris. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais écoutez d'abord, successivement, Hervé Morin, puis Bruno Le Maire, le croirez-vous, ils ne sont pas d'accord.
On est dans un amateurisme qui dépasse toute borne. Enfin, 15 personnes, regardez dans la rue, qui sont en train de marcher pour aller déposer des bougies. On en crée un événement pour bâtir en quelque sorte un nouveau schéma alimentant le sentiment que le pouvoir ne veut pas entendre le mouvement populaire.
Ça s'appelle le respect de l'état de droit. Et le respect du peuple, c'est respecter l'état de droit. Quand quelqu'un organise une manifestation alors qu'elle n'est pas déclarée, eh bien, il ne respecte pas le droit. On en tire les conséquences.
Voilà, Hervé Morin sur LCI, Bruno Le Maire sur France Inter. Signalons que ce soir, Éric Drouet est sorti de sa garde à vue. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de faire une sorte de martyr d'Éric Drouet? Alors, je vois François Reinhardt qui
Parce que hier, j'entendais quand il a été arrêté. D'abord, j'entends ce que dit Hervé Morin. Mais enfin, il avait appelé l'après-midi, il avait dit, on va faire ce soir une grosse action.
Choquer
l'opinion. Donc déjà, il y avait un côté, ils étaient 15, mais ils pouvaient être beaucoup plus. Drouet, lui-même, il joue au chat et la souris. Hein, il essaie de dénerver la bête, d'agacer la bête. Donc, il joue avec ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est récidiviste, puisqu'il a déjà été interpellé dans une manifestation non autorisée avec une matraque qui était sur lui, ce qui était interdit. Donc, il est déjà mis en examen pour cette chose-là. Donc, il y a le côté deuxième fois, etc., qui est un petit peu excessif. Et puis la troisième, autour de lui, il y a des gens qui hurlaient « dictature, dictature ». Franchement, et Jean-Luc Mélenchon, qu'il défend, Jean-Luc Mélenchon, qu'il aille voir chez son ami Poutine ou chez son ami Maduro, ce que c'est qu'une dictature. Ça, c'est des dictatures. La France, c'est pas une dictature. Et Éric Drouet, il a passé une nuit en garde à vue, ça va. C'est pas. Et il va être jugé avec un avocat et en respectant les dates de droit, etc. Je trouve que là, on exagère, franchement. Il y a pas de martyr. L'état de droit, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Le gouvernement est dans son rôle.
La loi, c'est la loi du Radex. Voilà. Virginie Leguet, vous êtes fait chipper deux fois la parole, une fois par l'info, une fois par François Reynard. On va quand même écouter ce que vous avez à nous dire sur
Sinon, c'est la dictature.
Il me semble qu'il a très habilement dresser un piège dans lequel le gouvernement est un peu trop tombé. On a très bien entendu ces petites déclarations innocentes quand il est sorti de sa garde à vue en disant qu'il n'y avait rien de répréhensible, qu'il marchait, qu'ils allaient au restaurant après, qu'ils voulaient juste déposer des bougies en souvenir de ceux qui étaient morts.
Vous allez chez Maxime, rue Royale.
Enfin,
c'est pas loin de l'Élysée.
François Reynard a parfaitement de raison de rappeler qu'il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il voulait un peu choquer l'opinion publique. Après, il s'est justifié en disant que son nom n'apparaissait nulle part. Enfin, il a très bien préparé sa petite affaire. Et je regrette les images qui ont montré beaucoup de forces de police pour une arrestation qui a été un peu mouvementée et qui donne l'impression qu'on a un peu écrasé une mouche avec un éléphant. Mais bon, Éric Drouet doit s'en frotter les mains parce que c'est exactement ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il peut préparer la suite. Je ne sais pas, préparer une liste aux européennes. On sent que lui, il est dans une trajectoire très personnel, qui n'a plus rien à voir avec la trajectoire collective des Gilets jaunes. D'ailleurs, il est très controversé à la tête du mouvement, à l'intérieur du mouvement. Mais voilà, le gouvernement aurait peut-être gagné à ne pas se précipiter sur lui.
Yasmina Jaffar, est-ce que le gouvernement n'a pas commis quand même une erreur en l'arrêtant? Et on savait qu'il y avait des caméras,
il
des journalistes.
Il a agité la mouletta et il y a le téléphone qui est sorti à chaque instant. Maintenant, on le sait.
En plus.
On ne peut plus avoir d'erreur communicationnelle de ce type-là.
Il n'y a plus dans ce studio qu'il n'y a plus de micro. Mais enfin,
tout à fait. Non, mais c'est vrai que par rapport, encore une fois, je reviens à l'allocution du président, il y a une cohérence quelque part dans la volonté à quelques jours de peut-être un acte 8 de dire maintenant c'est fini. On a été peut-être un peu laxiste parce que le mouvement nous a dépassé, qu'il y avait une colère tellement incroyable qu'on a laissé faire ces manifestations sans être déclaré. Mais aujourd'hui, on a compris, la récréation est terminée. Donc, c'est une forme de cohérence de la part du gouvernement que de dire, je peux pas dire le 31.
Et la récréation est terminée. Il y a un peu de condescendance quand même dans ce que vous dites, dans cette position que prend le gouvernement.
Mais il a pas le choix. Enfin, sinon, si on s'installe dans la colère, on en est encore jusqu'au mois de juin. Donc on peut pas laisser tous les samedis de l'univers être marqués par des choses.
55% des Français sont d'accord.
Oui, mais ça va. Oui, mais alors vraiment au mois d'avril, on sera plus à 55% si on continue à avoir des Éric Drouet et des Maxime Nicole dire n'importe quoi sur les plateaux télé ou dès qu'on leur tend un micro. Là, le gouvernement n'avait pas le choix. Il est obligé de reprendre la main. C'est une nouvelle année. Ils considèrent qu'ils ont donné beaucoup. Il va y avoir un débat pendant 3 mois. Donc maintenant, je pense qu'ils se disent, nous sommes dans notre rôle. Maintenant, c'est vrai qu'ils se sont fait avoir par un jeune homme qui a peut-être des ambitions politiques qui rappellent Un autre qui est devenu député européen, dont j'oublie le nom, qui était à Florence, peut-être, je ne sais plus, Martin, quelque chose. C'est Édouard Martin, je crois. Mmh. Et donc, toute la journée, on a eu des micro-trottoirs et on a entendu des gilets jaunes dire « nous ne sommes pas dupes de ce monsieur ». Donc, les gilets jaunes peuvent eux-mêmes, si on fait une globalisation horrible, je déteste la globalisation, mais peuvent eux-mêmes décider de dire « nous ne voulons pas ni de ce monsieur, ni de Maxime Nicole, parce qu'il ne nous représente pas et qu'on ne veut pas de représentant ». Donc, c'est pas à l'État de décider de qui doit ou pas dire les choses, mais en tout cas, son rôle est de protéger.
On va continuer à débattre de Éric Drouet, la vie, son œuvre, mais on va laisser passer la météo, l'info, et puis on se retrouve juste après pour la deuxième partie des Informés. Restez avec nous.
France Info, partout avec vous. Demandez à votre mobile ou votre enceinte connectée « Je veux écouter les dernières infos ».
Nouvelle manifestation
France Info, en direct sur tous les assistants vocaux. France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com. Crédit immobilier, assurance de prêt, 300 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et la météo, c'est avec Jean-Pierre Hameau ce soir.
Les conditions anticycloniques se maintiennent au-dessus de notre pays et comme d'habitude à cette période de l'année, la grisaille sera au rendez-vous demain matin sur une large moitié nord du pays. Attention aux nombreux brouillards présents au lever du jour. Ces brouillards seront souvent givrants dans le nord-est et le long du Val de Saône. Partout ailleurs, le soleil sera au programme de votre matinée. Après dissipation naturellement des bancs de brouillard présents au lever du jour vers les plaines du sud-ouest par exemple, pour votre après-midi, les nuages résisteront dans le nord et le nord-est en laissant passer un peu plus de luminosité et partout ailleurs, prévoyez un bon ensoleillement. Côté température, les gelées seront quasi généralisées en fin de nuit avec des minimales comprises entre moins 5 et 0 degrés. Prévoyez des valeurs proches de moins 10 degrés du côté du Doubs. Comptez tout de même 1 à 4 autour de la Méditerranée. Les maximales resteront froides dans le nord-est et comprises entre 1 et 4 degrés au meilleur de l'après-midi. Comptez 4 à 8 dans les autres régions, excepté dans le sud-est où le mercure affichera 8 à 13 degrés.
Une prévision météo signée Jean-Pierre Hameau. Vous écoutez France Info dans une petite poignée de secondes, il sera 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'heure de retrouver Julien Lenglet pour l'info. Bonsoir Julien.
Bonsoir Olivier. Le premier sondage de l'année n'est pas très encourageant pour le gouvernement. Trois quarts des Français interrogés se disent mécontents de son action dans notre sondage d'Ensu Consulting pour le Figaro et France Info. Sondage qui fait apparaître le pouvoir d'achat comme priorité pour 54% des sondés. Quant au mouvement des Gilets jaunes, un peu plus d'un Français sur deux souhaite que ce mouvement continue. L'une des figures controversées du mouvement justement des Gilets jaunes, Éric Drouet, est sorti de garde à vue cet après-midi à Paris, celui qui avait notamment appelé à entrer à l'Élysée, partageant sur Internet des thèses complotistes, est ressorti avec une convocation devant le tribunal correctionnel le 15 février pour avoir organisé deux manifestations non déclarées, dont celle qui lui a valu d'être interpellé hier soir rue Royale dans la capitale. Christophe Richer.
On le pensait dans le 4e arrondissement, mais non, il était interrogé dans le 2e arrondissement. Éric Drouet a été extirpé dans la nuit, selon les mots de son avocat. Un jeu du chat et la souris de la part des policiers, comme un pied de nez à la tactique même des Gilets jaunes, être là où on ne les attend pas. Éric Drouet est donc sorti de garde à vue vers 16h15, après presque 20 heures de garde à vue. Alors une fois dehors, Éric Drouet est allé manger un morceau dans un restaurant à quelques mètres du commissariat du 2e, pendant une vingtaine de minutes. À la sortie du restaurant, son avocat a dénoncé l'objet même de la convocation, organisation de manifestations non déclarées. Quant à Éric Drouet, barbe noire, parfaitement taillée, il s'est montré combatif et ses premiers mots ont été pour ceux qui l'accompagnaient hier.
De toute façon, il y en a encore plein d'autres qui sont encore en garde à vue aujourd'hui, donc on va essayer d'aller les retrouver. Il y en a encore énormément, ouais.
Ça vous fait quoi d'être l'homme le plus recherché chaque fois que vous manifestez?
C'est désolant, surtout qu'on fait rien d'extraordinaire pour ça, donc c'est incompréhensible, ouais.
Éric Drouet est déjà poursuivi depuis le 24 décembre pour port d'armes prohibées. Une matraque avait été retrouvée en sa possession. Il devait comparaître le 5 juin prochain. Le parquet a annoncé que les deux affaires seraient jugées en même temps le 15 février, donc ce sera devant le tribunal correctionnel de Paris.
Les explications de Christophe Richer, un homme soupçonné d'avoir participé à l'agression de trois motards de la police nationale lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris, a été mis en examen aujourd'hui et placé en détention provisoire. Le 22 décembre dernier, sur les Champs-Élysées, trois motards de la police avaient été pris à partie et avaient reçu de nombreux projectiles. Pour la première fois de l'année, démocrates et républicains se retrouvent trouvent au Congrès américain, majoritaire à la Chambre des représentants. Les démocrates vont examiner le plan de financement de l'administration pour tenter de mettre fin au fameux shutdown. Le président Donald Trump réclame, lui, du Congrès les moyens de financer la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique. L'impasse budgétaire dure depuis maintenant 13 jours à Washington, où la démocrate Nancy Pelosi a été réélue aujourd'hui présidente donc de la Chambre américaine des représentants. Elle est âgée de 78 ans. Et puis c'est le musée le plus visité au monde. Le Louvre à Paris a accueilli plus de 10 millions de personnes en 2018. Chiffre communiqué aujourd'hui. Les informés, le retour Olivier Delagarde sur France Info, la deuxième partie.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie de Virginie Leguet de Paris Match, de François Reinhardt de l'Obs, de Yasmina Jaffar du site laruchemedia.com et d'Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France. Et on poursuit notre débat entamé il y a quelques minutes. Vous avez plein de choses à nous dire. Le gouvernement n'a-t-il pas fait une grosse bêtise en arrêtant Éric Drouet, ce gilet jaune controversé? On en débat. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Henri Vernet?
Alors c'est vrai que dans un premier temps, on a pu penser que c'était vraiment une démarche d'amateur, quoi. Amateurisme total, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait?
De la part du gouvernement,
qui en effet contribue. Ouais, parce que ça contribue à faire de Drouet, comme il le voulait, hein, en effet, un martyr, un prisonnier politique. C'est les termes que lui-même a employés, police politique, etc. Alors, on s'est dit, on sait que l'emphase et l'outrance, c'est très partagé en France, hein. Mélenchon en a parlé, mais souvenons-nous, hein, Sarkozy lui-même, en son temps, parlait de Stasi pour désigner le système judiciaire. Bon, donc ça, disons que c'est un classique. Mais quand même, c'est vrai que c'était amateuriste du gouvernement. Pourquoi? Parce que donc, finalement, ils arrivent à conforter une figure. Or, on sait que justement, c'est un petit peu la faiblesse de ce mouvement, c'est de ne pas avoir de figure qui l'incarne, qui le mène, etc. Donc là, on pourrait croire qu'ils ont joué contre leur camp. Et en fait, moi, je suis pas si sûr. Je pense que, en effet, qu'est-ce qu'il fait enfin, Macron, il applique une méthode qui est vieille comme De Gaulle et mai 68. La réforme, oui. La chienlit, non. La réforme, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des mesures donc qui ont été prononcées. Il y a un débat. Alors, on verra, sincère ou pas, efficace ou pas. On verra bien. C'est jusqu'au mois de mars. Mais donc la réforme, elle continue, elle est censée continuer, et donc la chienlit, il est temps de l'arrêter, c'est ce qu'il a promis lors de ses vœux. Un passage entier de ses vœux était consacré à l'ordre républicain qui doit revenir, à la foule haineuse,
etc. Mais vous savez bien dans ce pays qu'il y a des gens qui veulent renverser la table, Henri Vernet. Mais est-ce que...
Alors il y a ceux qui veulent renverser la table, et il y a tous ceux qui au contraire ne le veulent pas. Ouais. Et donc il joue sur ceux qui ne le veulent pas, c'est pour ça que je fais la référence à De Gaulle 68, parce que qu'est-ce qui s'est pas... Dernière analogie d'ailleurs, c'est que, souvenez-vous, 68, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ceux, les Français un peu mous qui regardaient ça, etc., mais qui ne savaient pas vraiment quel camp choisir. À un moment, ils ont basculé, ils ont eu une espèce de crainte quand vraiment il y a eu les débordements et quand De Gaulle a disparu. Il était juste à Baden-Baden, mais quand même, on s'est dit, tiens, où est-ce qu'il est? Et hop, il revient, il refait un discours et gros, il dissout l'Assemblée. Bon, bref, et grosse manif des gaullistes. Et là, attendez, oui, mais sauf que là, on a appris récemment que les marcheurs organisent aussi une grande manif de soutien fin janvier. Peut-être rêvent-ils de rééditer l'exploit. Donc, alors, amateurisme, pas tant que ça, parce que ça conforte toute une partie de l'électorat qui, dans les faits, maintenant, ça suffit. Dernière chose, Mélenchon, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire 5 étoiles. Ouais. Et donc, c'est pour ça que Mélenchon attise la braise, parce que Mélenchon lui-même, il est pas fou, et c'est un sénateur. Mélenchon, il a passé sa vie sous les ordres de la République. Il sait bien que la France n'est pas une dictature, mais quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer le Pépé Grillo, il veut faire 5 étoiles. Et donc,
question, Virginie Leguet, Éric Drouet peut-il être un danger pour la République dans les semaines, les mois, les années qui viennent?
Bah, Éric Drouet se sent pousser des ailes. Il doit être ce soir, il doit se frotter les mains. Je ne sais pas s'il peut vraiment devenir un danger parce qu'il est quand même pas représentatif de l'ensemble du mouvement. Et tout au long de la journée, j'ai entendu des responsables des Gilets jaunes dire « Mais la démarche personnelle des Drouet, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre. La ficelle est un peu grosse. Ils surjouent la victimisation. » Enfin, ils sont pas dupes, les Gilets jaunes. Ils sont peut-être en colère contre Emmanuel Macron, mais ils sont pas dupes du jeu personnel que jouent certains. Moi, ce que je trouve plus ennuyeux dans cette affaire, c'est... la différence de registre entre la première intervention d'Emmanuel Macron lorsqu'il a dit « j'ai compris, j'ai eu tort, je me suis mal exprimé », sa repentance, et puis tout d'un coup, le 31 décembre, hop, circuler, on tourne la page, on redevient l'Emmanuel Macron, j'allais dire presque l'Emmanuel Macron de 2017, comme si de rien n'était, on remet la France en ordre, on repart, on change rien, on fait les réformes. Moi, il me semble que cet affichage très volontariste est quasiment impossible à mettre en œuvre. Et je suis un peu sceptique quant à la volonté affichée elle est là, mais quant à la capacité qu'il aura de mettre en œuvre des réformes aussi lourdes que la réforme des retraites, la réforme de la dégressivité de l'assurance chômage, si la France est dans cet état-là, je ne vois pas comment, même en faisant plaisir à son aile droite, ce qu'il fait très clairement en disant nous vivons dans un pays d'ordre, on va remettre de l'ordre et je suis là pour ça et je ne laisserai pas le désordre s'installer. Ça fait plaisir à une partie de son électorat, mais l'autre partie va freiner des cas de fer et va se rendre extrêmement antipathique quand il va engager des réformes.
Je voulais dire un mot par rapport à ce que, pas du tout. Ce que disait Virginie, je suis pas sûr que le côté ordre, etc., aujourd'hui, ça fasse forcément plaisir seulement à la droite. Je pense qu'il y a une partie de la gauche républicaine qui est contente de voir qu'il n'y a pas un factieux. Éric Drouet, c'est quand même quelqu'un qui disait, on va marcher sur l'Élysée. Bien moi, j'ai pas envie de voir Éric Drouet à l'Élysée.
S'auto-marginaliser.
Je rebondis sur ce que disait Henri sur le côté 68. Là, il y a clairement un côté 68 à l'envers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même le aujourd'hui là, quand Éric Drouet a été arrêté, c'est Philippot qui disait qu'est-ce que c'est que cet autoritarisme machin. C'est Philippot qui joue le Cohn-Bendit de machin. C'est hallucinant.
Éric Drouet n'a pas fait mystère qu'il avait voté pour Marine Le Pen.
Alors ça,
il n'a pas tout à fait dit ça.
On essaye.
Il a dit que son candidat était présent au premier tour et au deuxième tour. Alors on n'imagine pas que son candidat soit Emmanuel Macron. On en déduit que c'est Marine Le Pen. Mais il n'a pas prononcé.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de retrouvaille? De réconciliation des deux extrêmes à travers la personnalité d'Éric Drouet.
En prenant la personnalité historique de Jean-Baptiste, c'est ça, Drouet, Jean-Luc Mélenchon, c'est absolument ce qu'il fait. Il a perdu 15 points depuis la perquisition chez lui où il a crié que son corps était sacré. Même dans son camp, il a perdu absolument sur toute la possibilité de gagner un peu de voix aux européennes. Donc il reste quelques mois aujourd'hui pour recréer en effet 5 étoiles et pour essayer d'imaginer ce qui était impensable il y a quelques mois, une possibilité d'imaginer que Madame Le Pen et Mélenchon puissent s'accorder d'une manière ou d'une autre. Donc, il crée ça aujourd'hui pour avoir un endroit pour être. Parce que l'idée de Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout d'être plutôt que d'incarner.
Mais ce rapprochement des extrêmes, on peut pas.
C'est possible. Depuis aujourd'hui, c'est possible maintenant.
C'est très inquiétant parce que sans entrer dans les fantasmes, etc. Il faut quand même remarquer que ce rapprochement, il se produit en quelque sorte avec deux mouvements qui ont intérêt au chaos, qui jouent le jeu des urnes depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça marche pas. Il y a un plafond de verre pour l'un, pour l'une comme pour l'autre. Élection après élection, ils ont leurs espoirs, notamment Marine Le Pen et le FN, enfin RN maintenant. Et puis ça marche pas. Aujourd'hui, il y a cette situation, il y a cette France qui est vraiment, qui est assez chaotique, il faut bien le dire, ils se disent l'un comme l'autre, en effet, l'un rêvant du modèle 5 étoiles italien, l'autre... Oui, vous m'arrêtez, il faut la pause, c'est ça.
Je vous arrête. Et on peut très poliment, monsieur Henri Vernet. Il est 20h40. On verra si vous êtes aussi loquace. Sur les questions spatiales chinoises. On se retrouve dans un instant. 20h40, toute l'info, c'est avec Augustin Rivet.
Les Français sont toujours majoritaires à souhaiter que le mouvement des Gilets jaunes continue, mais cette majorité se réduit d'après le sondage livré ce soir par Odoxa Dentsu Consulting. 55% de Français le soutiennent encore, ce mouvement. Des appels à un nouveau rassemblement samedi ont été lancés sur les réseaux sociaux. Cet après-midi, le chauffeur routier Éric Drouet est sorti de garde à vue. Il sera jugé le mois prochain pour organisation de manifestations sans autorisation. Le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. Ses députés ont envoyé un courrier aujourd'hui à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Une précédente demande avait été rejetée par la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, elle aussi élue de la majorité. Un garçon de 11 ans et sa sœur de 8 ans poignardés cet après-midi par leur grand frère, un adolescent de 15 ans, c'était à Pessac, en Gironde. L'agresseur a été arrêté. D'après la police citée par France Bleu Gironde, les deux enfants sont hospitalisés dans un état grave. L'ancien footballeur Ronaldinho n'a plus le droit de quitter le Brésil. Il y a été condamné en 2015 à 2 millions d'euros d'amende. Il avait ordonné sans autorisation une construction immobilière dans une zone protégée et il n'a toujours pas versé l'argent, d'où cette décision d'alourdir sa peine aujourd'hui. Ça risque de compromettre sa venue, jugée imminente à la conférence internationale du sport à Dubaï. Le procureur estime que l'ancien footballeur du PSG se moque clairement de la justice brésilienne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, vous avez demandé la Lune, ne quittez pas, on va même aller sur la face cachée de la Lune. C'est une prouesse technologique, oui monsieur Vernet, qu'ont réussi les Chinois, et une première mondiale, poser une sonde sur la face obscure du satellite naturel de la Terre. Et c'est très compliqué, hein, parce qu'il fait ou très très chaud, ou très très froid, moins 173 à 127 degrés, et en plus on ne peut pas guider la sonde depuis la Terre, parce qu'évidemment c'est la face cachée. Bref, vous vous dites que dans ces conditions, à quoi bon aller passer un week-end sur la face cachée de la Lune? Eh bien, vous avez tort. Écoutez Michel Vizeau, il est astrophysicien au CNES.
C'est une face à explorer, parce que elle nous révélera des nouvelles données scientifiques, des nouvelles informations sur la formation de la Lune, l'origine du système solaire et la façon dont il s'est formé, donc sur l'histoire de la Terre, donc sur notre propre histoire.
Voilà, Michel Vizeau, astrophysicien sur France 2. Alors évidemment, il y a l'aspect scientifique, mais ça n'aura échappé à personne, et surtout pas au fin observateur que vous êtes, qu'il y a une dimension politique là-dedans, François Reinhardt.
Alors, il faut reconnaître qu'il y a une dimension politique, évidemment, mais que ça a toujours été le cas dans la conquête spatiale, hein, puisque hein, on va fêter cette année les 50 ans de Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune. C'était évidemment la guerre froide, c'est les États-Unis qui voulaient dire, c'est nous les premiers.
Et le Sputnik, déjà avant.
Et le Sputnik, c'est parce qu'ils avaient été humiliés par le Sputnik russe, les Américains, donc ils ont voulu dire, maintenant, ce sera nous qui retrouvons la première place. Et là, les Chinois, ils veulent dire, les premiers, c'est nous. Et ce qui me paraît très, très important, et tous les Français doivent avoir ça en tête, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est l'événement essentiel du 21e siècle, c'est que la Chine veut dominer tout le monde. Oui. La Chine veut devenir la première puissance mondiale. Elle est en train de devenir la première puissance mondiale, et elle le devient à tous les niveaux. Je pense que
quand vous écoutez les Chinois, ils disent on veut pas dominer tout le monde, mais on évidemment veut juste reprendre la place qu'il a.
C'est ça qui était la première place depuis depuis le début de l'humanité quasiment jusqu'en 1800. La Chine était la première puissance mondiale sur le plan commercial, et elle veut le redevenir. Mais jusqu'à présent, on avait un petit peu dans la tête quand même l'idée, la Chine, l'atelier du monde, celle qui fabriquait, tout le monde sait très bien qu'on achète des objets chinois.
Sauf que
c'est haute technologie, voilà. Et il y a eu deux autres infos cette semaine qui vont dans le même sens de la puissance chinoise et qu'il faut écouter aussi. La première, c'est Apple plonge en ce moment. Vous savez, le cours d'Apple plonge. Mmh. Une des causes qui fait plonger l'action d'Apple, le fait que les Chinois désormais achètent des téléphones chinois. Donc ça veut dire, arrêtent d'acheter ailleurs, le luxe, maintenant c'est eux qui le produisent, l'objet hyper technologique, etc. Mm. Ça c'est un truc, et la deuxième, c'est le président Xi Jinping, là, ce dictateur qui règne sur cet immense pays, qui dit que désormais, Taïwan, on est prêt à la récupérer par les armes. Vous savez, Taïwan, cette île est séparée depuis 1949
de la Chine continentale.
Sauf que ça, ce sera, si c'est le cas, c'est la guerre mondiale. Si ils veulent remettre la main sur Taïwan, les Américains, normalement, défendent Taïwan. C'est comme ça depuis 1949. Donc voilà, à tout moment, la Chine dit je m'impose, je suis la première puissance, et écrasez-vous.
C'est passionnant, François Reinhardt. Je voudrais passer la parole à Virginie Leguet, parce que j'ai l'impression qu'on l'a perdue. Qu'est-ce qui se passe?
Je notais rien du tout. Je me souvenais de l'émotion qui avait saisi le monde en 69 lorsque Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, et de sa phrase, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et je me disais...
c'était travaillé au niveau de la com. Hein,
oui, et là, aujourd'hui, finalement, l'événement, c'est pas tant que ça se soit de nouveaux produits, c'est que ça soit la Chine qui l'ait fait. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François Reinhardt, c'est ça l'événement, c'est que ça soit la Chine et plus les pays dont on pouvait imaginer qu'ils garderaient la mainmise sur la conquête spatiale.
Il y a le sentiment.
Et je trouve ça très intéressant, et ça dit beaucoup des ambitions de pouvoir de la Chine, qui n'a pas du tout l'intention de s'en arrêter là. Il y a un programme qui est en cours, il y a une opération qui est prévue en 2020. Et
ils dépensent des milliards. Hein. Et bientôt, alors que l'ISS va être envoyé au rencard, il y aura la station spatiale chinoise.
Ils y travaillent depuis des années, ils ont investi des milliards.
Ce seront la seule à être dans l'espace.
Et tout va être chinois, tout va être contrôlé par les Chinois, etc. C'est pour ça, à mon sens, qu'il faut qu'on soit européen, parce que la France toute seule, elle ne se défend pas. Oui. Ça me paraît toujours surréaliste que dans la vie politique française, on ne parle jamais de la Chine.
Mais parce que ça paraît en effet assez lointain pour.
Mais sauf que c'est pas lointain.
Complètement. Mais les États-Unis nous paraissent bien plus proches que la Chine. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de 1800 et de cette première puissance mondiale. Il y a eu après en 1840 les années d'humiliation. Mmh. Et c'est cette revanche-là.
Le traité de Nankin.
Voilà. Oui, exactement.
La guerre de l'opium. Mais oui.
Et c'est cette revanche-là avec un président qui veut être un empereur parce que maintenant c'est à vie, qu'il va être absolument réélu, enfin autoproclamé quoi qu'il arrive. Et il y a la route de la soie. Et je pense qu'il y a toute cette imaginaire que l'on a, nous, Européens, on se dit que c'est encore très loin, que finalement ils ne nous font pas peur. Ils sont avec des bateaux en bois dans l'eau et puis finalement c'est pas du tout un danger. Mais c'est un danger. Et ce téléphone portable, en effet, maintenant, il n'y a pas que les Chinois qui l'achètent, cette marque-là. Je sais pas si on a le droit de la dire, mais je la dis pas. Je sais pas.
Il a bien parlé d'Apple, hein, François Reynard.
Bon, c'est Huawei. Ouais. Les Français l'achètent de plus en plus. Il y a vraiment une vente absolue par rapport à Noël qui vient de passer dans les cadeaux, qui est incroyable. Les gens n'achètent plus iPhone ni Samsung, mais sont passés à Huawei, qui est apparemment un produit totalement exceptionnel et qui rivalise dans la technologie et ailleurs. Il y a aussi une autre photo qu'on a vue cette semaine. La photo de Shanghai. De Pékin,
Shanghai.
Oui, pardon, pixelisé.
195 milliards de pixels.
Voilà, qui montre techniquement une prouesse incroyable au-delà de la Lune aujourd'hui et qui montre aussi que ça n'est pas si facile que ça pour eux de devenir le premier pays, la première puissance mondiale parce qu'il n'y a pas d'acquis sociaux. C'est très compliqué. Ça reste quand même, pour le coup, pour employer un mot tout à l'heure qu'on employait dictature, c'est un endroit, un régime dont on ne veut pas. Donc, tant qu'ils n'ont pas réglé cette problématique-là, humaine et sociale et sociétale, je pense que l'Amérique a encore de beaux jours devant elle.
Henri Vernet, est-ce qu'il faut envoyer Éric Drouet dans l'espace dans une fusée chinoise?
c'est un projet qui est assez original mais qui nous appartient. Je vous laisse. D'abord, en plus, ce serait
le péril. Le péril, j'ai les
jaunes. Et que nous vous laissons.
Henri Vernet voulait parler d'Éric Drouet.
J'ai mal à faire le lien.
Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que ça apparaît à tout le monde. C'est une opération de communication mondiale. Je ne dis pas sans précédent parce que on le disait avec François Reynard, le Spoutnik, les opérations, les opérations Apollo, ça a été quand même de la com. Il y avait peu d'intérêt scientifique.
Ah, faut pas exagérer. Si, quand même. Attendez, si on refait toute la conquête spatiale, toute l'histoire spatiale, il y avait aussi un intérêt scientifique.
Aller sur la Lune, très peu.
Et là, celui que le spécialiste que vous avez interrogé, en plus, il a fait des études, hein, j'imagine, là-dessus, il s'y connaît mieux que nous, en tout cas mieux que moi, et il dit qu'il y en a un. Donc moi, je veux bien le croire. Et ça, justement, c'est un aspect qui est intéressant, parce que si la Chine devient un acteur majeur, puisque, en effet, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que la Chine, souvent, pour nous, c'est un peu les copies, c'est-à-dire un sous-traitant, finalement. Ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus, et maintenant, c'est une première. C'est la première fois qu'ils font quelque chose que nous jamais fait, ni les Américains, ni les Russes, ni les Européens. Donc s'il y a un acteur majeur qui rentre et que ça relance un petit peu une conquête spatiale utile, eh ben ce serait pas plus mal, parce que c'est un regret que l'Europe, aujourd'hui, bien sûr, il y a encore Ariane, il y a tout ça, mais ça reste un champ tout à fait intéressant. Et dernière chose, un régime nationaliste, oui, il faut se méfier. C'est vrai que la surveillance, la photo au pixel dont vous parlez, ça rappelle que c'est un pays où, en effet, la surveillance est partout, les caméras sont partout. Pour autant, est-ce que c'est une société immobile? Ça, je crois pas. C'est une société qui bouge aussi, avec ses dissidents, avec des revendications, avec quand même des dirigeants qui sont certes un peu dictatoriaux, mais pas fous, qui voient bien qu'il faut parfois lâcher du lest.
Henri Vernet, les Chinois sont dans l'espace, ils sont également au Louvre, et on en débat dans 2 minutes 30, il est 20h50.
L'art de la transition est incroyable.
Toute l'info avec Augustin Rivet.
Soulef Hajimi est ce soir mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elle est la compagne de Peter Sherif. Elle a été placée en détention provisoire tout à l'heure, poursuivie également pour financement d'une entreprise terroriste. Ils ont été arrêtés ensemble à Djibouti en décembre. Peter Sherif a reconnu en garde à vue avoir été en contact avec l'un des auteurs des attentats de Charlie Hebdo. La mort cet après-midi d'un ouvrier qui travaillait à la réfection des gouttières de la préfecture des Yvelines à Versailles. Il est tombé du toit sans qu'on sache encore ce qui est à l'origine de la chute. Le directeur de cabinet du préfet parle d'un drame terrible. Les services de l'inspection du travail sont actuellement sur les lieux. En Italie, plusieurs maires de communes, entre autres Palerme, Naples ou Florence, ont décidé de s'opposer à un décret-loi, texte récemment porté par le ministre d'extrême droite Matteo Salvini. Un décret-loi qu'ils jugent contraire aux droits de l'homme. Il consiste à interdire le droit de résidence aux immigrés ayant un permis de séjour et d'empêcher ces mêmes personnes de s'inscrire au service sanitaire national, fichier italien qui permet de consulter un médecin traitant. Et puis, ni la crue de la Seine, ni le mouvement des gilets jaunes n'ont empêché les touristes de venir à Paris. Le musée du Louvre annonce qu'il vient de connaître la meilleure fréquentation annuelle de son histoire. 10,2 millions de visiteurs en 2018, c'est énorme, une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Et 3/4 de ces visiteurs sont des touristes étrangers.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et voilà, ben vous venez d'entendre ce qu'a dit Augustin Rivé. Les Chinois ne sont pas effectivement que dans l'espace, ils sont également au Louvre, comme les Américains, comme les Brésiliens, comme les Européens. En fait, le monde entier se rue, s'est rué l'an passé au Louvre. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour vous, Yasmina Jaffa?
Mais ça veut dire que les... On ne peut pas dire que le souvenir des attentats est loin parce qu'il restera là. Mais ce qui a fait du mal à Paris, ce sont évidemment les attentats qui ont fait que les touristes sont partis. Aujourd'hui, ils reviennent. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui et non, parce que j'ai pas vraiment vivre dans une ville musée non plus. Berlin ou d'autres villes d'Europe sont très dynamiques et ne sont pas simplement des endroits où on va regarder des œuvres et on peut même pas trop les regarder tellement il y a du monde devant l'œuvre quand on voit la Joconde. Moi, enfin, j'y étais une fois, je n'arrive pas à la regarder. Donc, est-ce qu'il faut à ce point qu'il y ait du monde partout? Je ne sais pas, mais en tout cas d'un point de vue économique, c'est très bien. On voit que les différents samedis où il y a eu un ou deux samedis où les musées ont été fermés, ça n'a pas eu d'incidence. Les gilets jaunes n'ont pas eu d'incidence sur la fréquentation. En tout cas,
mais personne dans le Louvre ce jour-là, quand même. Si, il était fermé, le Louvre.
Non, mais en tout cas, il y a eu envie d'y aller, quoi qu'il arrive. Donc, c'est assez intéressant. Après, c'est vrai qu'autour du Louvre, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un travail de communication assez phénoménal. Que ce soit, on se rappelle du clip de Beyoncé ou de Jay-Z, qui a été tourné l'année dernière
on
là-bas.
Dit d'ailleurs, les responsables du Louvre disent que c'est un des effets qui explique ce très bon résultat.
130 millions de vues, avec une personnalité planétaire, un couple milliardaire.
C'est dingue. Regardez un clip de Beyoncé.
Mais oui, et Will.i.am l'avait fait en 2010. Après, il y a aussi les différentes émissions.
Pardon, il faut dire qu'il donne envie d'y aller. Vous l'avez vu, le clip?
Oui, j'ai vu.
Le clip est incroyable.
Il donne envie d'y aller, parce qu'il met en valeur...
Absolument.
Ils sont couchés sur les marches, évidemment. Bien sûr. Mais quand vous visitez, il n'y a pas ça.
Et après, juste pour terminer, il y a aussi toutes ces émissions... Il y a aussi toutes ces émissions pour terminer autour de France Télévisions, par exemple, qui met vraiment le Louvre en valeur plus que d'autres musées, que ce soit la nuit au Louvre, que ce soit des séries. Il y a une série qui est passée la semaine dernière sur France 3 à propos du Louvre. Donc, on en parle beaucoup et il y a une très belle exposition l'année prochaine, donc, de Pierre Soulages pour ses 99 ans.
C'est un centenaire, oui, même.
Voilà, exactement, en décembre prochain. Donc, ce sont des belles activités.
Virginie Leguet, tout ça n'est qu'une très, très bonne nouvelle. Moi, je me souviens quand même du livre de Michel Houellebecq, la carte tel territoire, où il prédisait finalement que la France allait devenir une sorte de parc d'attractions touristique, culturel, mondial, point final. On construit plus rien en France.
Oui, non mais enfin, un musée, il est fait pour être vu par des gens. C'est, je comprends pas. Donc il est vu par beaucoup de gens, moi je m'en félicite.
J'ai l'esprit tordu, moi, qu'est-ce que
non,
vous...
Non mais je pensais plutôt à Michel Houellebecq plutôt qu'à vous, mais voilà. C'est pas parce qu'il y a beaucoup personne de monde dans un musée, c'est le but même du musée, c'est de faire voir des œuvres d'art à des gens le plus large possible. Mais moi je suis assez d'accord avec ça, j'ai en mémoire ce clip que j'ai regardé, qui est absolument incroyable. Oui. C'est vraiment ce couple de la très puissant, noir, très... Ils sont habillés là, étant en vert pâle, l'hôtel en lavande, ils posent devant...
Ah, c'est à tous le dernier souvenir de Louvre que vous avez.
Je vais vous annoncer une nouvelle. Grâce à eux, le Louvre est devenu hype, le Louvre est devenu extrêmement tendance, et le Louvre, j'ai vu que dans les touristes qui venaient, il y avait énormément d'Américains, je serais pas étonnée qu'ils viennent après avoir vu ce clip. C'est vraiment fascinant. Et en plus, alors je vais vite terminer pour laisser François parler, mais il y a une dimension politique dans ce clip qui est, alors peut-être pas tout à fait le sujet du jour, mais qui est, on prend le pouvoir c'est nous, ce couple-là, très, très riche, très puissant, très, très power people, mais c'est au Louvre, et le Louvre devient un symbole planétaire.
Alors les Chinois ont pris le pouvoir dans l'espace, les Noirs américains au Louvre, François Reynard, qu'est-ce qu'il nous reste?
Mais, non, en tout cas, moi je pense qu'aussi que le fait qu'un musée soit très visité, ça me fait plaisir, c'est quand même un truc très agréable, et que ça se passe à Paris, ça me fait plaisir aussi, parce que c'est en France, et je suis content que ça donne des sous à la France, tout ça c'est des touristes qui viennent.
Mais qu'il faut avoir d'un journaliste pour poser des questions aussi tordues.
Mais la question qui reste, c'est que ça fait trop de monde au Louvre, effectivement, c'est très compliqué. Moi, cet été, j'ai aussi fait l'expérience pour un livre que je suis en train d'écrire d'aller à Versailles. C'était horrible. Le 16 août, c'était horrible. C'est-à-dire que je me dis, comment on peut faire ça à des touristes? J'ai visité Versailles, on voit rien. J'ai vu des perches à selfie, des gens de toutes les nationalités, j'ai écouté toutes les langues, mais j'ai rien vu de Louis XIV, ça c'est sûr. Et le truc qui est très triste, c'est qu'en même temps, au château de Fontainebleau, par exemple, je suis sûr qu'il n'y avait pas grand monde. Et à Paris, il y a des tas de musées extraordinaires, des petits musées qui sont des merveilles, qui représentent des tas de choses formidables. Et donc la question, c'est celle de la régulation. C'est la régulation des flux touristiques. Puisqu'on va dans les sociétés dans lesquelles il y aura de plus en plus de touristes, eh ben, il faut réussir à ce que ces touristes se répartissent.
C'est ce qui se passe à Venise, hein, où on va taxer les touristes.
Il faut leur dire, il y a d'autres choses. Henri
Ernest, vous avez le mot de la fin. Faut-il mettre Éric Drouet au Louvre?
Non, là, quand il reviendra de la Lune.
Parce que pour en rejoindre ce que disait François, parce qu'il me frappe aussi dans ces formes de circuits, c'est qu'en plus, les gens qui visitent, très souvent, pour la plupart d'entre eux, le font à travers l'écran de leur appareil photo ou derrière de leur smartphone. Et ça, c'est frappant. C'est-à-dire qu'on est presque plus acteur, on est acteur à travers cet écran. Et donc, ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que finalement, on se dit, peut-être qu'on en profitera après, une fois rentré. Donc, ça, voilà, ce serait peut-être bon de sortir un petit peu des circuits battus, à la fois dans la manière d'appréhender ces grands musées, et puis en effet en allant voir les autres richesses culturelles. Juste un mot par rapport à votre réflexion, Mme Bekiel. Il n'a pas tort. Il ne faut pas non plus que ce pays
devienne
les informés
pour ce soir. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas totalement abandonné, parce que l'info continue sur France Info. Merci à vous quatre, en tout cas.